Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV, les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Hello. Magie, voici l'instant M avec un prestidigitateur. J'adore ce mot.
Vous êtes en direct, allez-y.
Ils auraient pu choisir d'appeler l'émission « Tous ensemble », mais ça, sans doute que ça ressemblait trop à un slogan de manif ou de supporter de foot, ou alors « Ensemble », mais on flairait le tract politique. M6 a donc choisi un titre en anglais pour cette émission adaptée d'un format britannique, « Together ». Et tant pis si c'est un peu compliqué à prononcer, Together. Ou plutôt tant mieux, parce que l'animateur de ce nouveau jeu est un hurluberlu qui cultive son côté gaffeur, Éric Antoine, magicien, humoriste, animateur préféré des enfants, selon le journal. Mickey, c'est vrai, il sera ce soir aux commandes de Together, tous avec moi, une émission de pur divertissement et qui s'assume comme tel, reste à s'imposer dans le paysage saturé des jeux télé.
L'instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
Et bonjour Éric Antoine.
Bonjour Dorothée, merci pour ce joli résumé, très juste.
Vous êtes donc l'animateur de cette nouvelle émission dans laquelle on trouve aussi Garou qui endosse le rôle du capitaine.
Oui, absolument.
Et vous êtes vraiment l'animateur préféré des enfants, selon le journal de Mickey. Immense responsabilité quand même.
Bah oui, parce que être... Mais c'est vrai que c'est une responsabilité, parce que être regardé par les enfants, ça veut dire être un exemple du futur. C'est-à-dire, si les enfants commencent à tous me ressembler, on peut dire que la France est bien barrée, je le dis tout de suite.
On parle
ça va partir en vrille, ce pays.
On parle de Together dans un instant. D'abord, la chronique du mardi dans l'instant M, c'est avec Xavier Delaporte. Bonjour Xavier.
Bonjour Dorothée, bonjour à toutes et à tous.
Observateur de nos vies numériques. Votre fenêtre s'ouvre ce matin sur un parallèle surprenant entre Facebook, Twitter et le monde de la finance.
Si vous fréquentez un peu les réseaux sociaux, vous avez sans doute fait l'expérience suivante. En quelques minutes, vous voyez un sujet monter, il emplit vos timelines au point que vous avez l'impression que rien d'autre n'existe. Quand c'est polémique, tout le monde s'empoigne. Quand c'est consensuel, tout le monde semble rechercher le propos le plus frappant. Parfois, vous vous y mettez aussi, vous participez à la bagarre ou à la communion. Et puis, au bout de quelques heures, soit le sujet disparaît de lui-même, soit vous quittez les réseaux. Dans les deux cas, il vous reste une impression étrange et beaucoup de questions. À quoi ai-je assisté ou participé? Est-ce que c'était vraiment important? Est-ce que c'était réel? Est-ce que c'était le réel? Alors ces questions, j'avoue que je me les pose de plus en plus souvent et je sais pas bien comment y répondre. Mais j'ai trouvé à quoi ça me faisait penser. Alors, je sais, les analogies valent ce qu'elles valent, mais elles nous aident au moins à comprendre ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Ces moments me font penser à des bulles spéculatives. Alors une bulle spéculative, on le sait, c'est un phénomène économique complexe, mais en gros, c'est un emballement du marché qui a pour conséquence de faire monter des valeurs à une hauteur telle qu'elles n'ont plus rien à voir avec le prix réel. Alors quand on y réfléchit un peu, il y a bien des ressemblances entre ce phénomène économique donc et ce qu'on connaît régulièrement dans les réseaux. Une disproportion des valeurs déjà. Le fait ensuite que les acteurs ont beau être concurrents, ils participent à l'augmentation de la valeur, puis à son écroulement d'ailleurs. La difficulté aussi de se tenir en dehors du processus quand on est un acteur du marché. Le fait encore que tout le monde voit assez vite que les valeurs sont disproportionnées mais continue d'alimenter le processus par peur de ne pas emporter la mise. Et puis, le fait aussi que dans ce type de processus, rares sont ceux qui gagnent et beaucoup sont perdants. Autre ressemblance, les acteurs de ces bulles spéculatives sont peu nombreux par rapport au reste de la population qui les ignore ou s'en fout, mais en sentira quand même les conséquences au moment du crack. Alors tout ça fait un écho étonnant à ce qui se passe dans les réseaux, parce que c'est souvent la polémique, donc des acteurs concurrents qui font monter un sujet dans les réseaux sociaux. La tentation est forte de participer de peur d'être hors-jeu, et puis ces moments d'emballement des réseaux ont aujourd'hui des conséquences sur le monde, sur les conversations par exemple. Alors bien sûr, la valeur dans les réseaux, c'est pas l'argent comme sur les marchés, mais ce serait plutôt la visibilité, celle que vont soudainement acquérir un sujet ou une personne. Mais quand même, je trouve que l'analogie fonctionne bien. Elle permet même de comprendre quelque chose, à mon sens, fondamental. Aux bulles spéculatives, les économistes trouvent des causes économiques, certes, par exemple les crédits faciles et fragiles, mais aussi des causes psychologiques comme l'emballement mimétique ou ce que Alan Greenspan appelait l'exubérance irrationnelle. De la même manière, ces bulles qu'on voit surgir dans les réseaux sociaux ne sont pas simplement le fait des fonctionnalités économiques de ces plateformes, par exemple les likes, partages, retweets et puis autres artefacts algorithmiques, mais sont en jeu d'autres causes d'ordre plus psychologique. Alors l'analogie nous permet de comprendre donc que ce qui a lieu aujourd'hui sur Internet a aussi lieu ailleurs depuis longtemps et sans doute encore pour longtemps. Ça nous permet aussi de comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de s'en prémunir et même pas beaucoup moyen d'expliquer vraiment pourquoi c'est tel sujet plutôt que tel autre ou telle personne plutôt que tel autre qui va devenir une bulle. Rappelons-nous ce qu'avait répondu le grand physicien Isaac Newton quand on lui avait demandé d'expliquer le crack de la South Sea Company au début du XVIIIe siècle. Il avait répondu que lui, il pouvait calculer les mouvements des corps célestes, mais pas la folie des hommes.
Et voilà, Newton aurait sans doute tout le mal du monde à se pencher aujourd'hui sur les buzz des réseaux sociaux. Merci beaucoup Xavier Delaporte. C'est une chronique à retrouver bien sûr sur la page de l'Instant M, franceinter.fr.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
C'est chaud ce soir et tout peut encore bouger. Voici les sons.
Ah, il donne de sa personne, hein, Éric-Antoine, c'est le moins qu'on puisse dire. Together, nouvelle émission donc ce soir sur M6 avec Éric-Antoine pour animateur. Il faut commencer par décrire le décor, Éric-Antoine, le plateau de ce jeu télé à voir ce soir. Ça ressemble un peu à une partie de Qui est-ce, grandeur nature pour ceux qui connaissent le jeu de société.
Mais
il y a un
joué,
grand
d'ailleurs.
Mur avec de petites cases de toutes les couleurs et dans chaque case, un juré,
oui.
Puisqu'il s'agit de se démarquer des autres jeux et des autres télécrochets. Votre originalité à vous, elle est dans ce mur, non, Éric-Antoine ?
Absolument, mais c'est marrant que vous parliez du Qui est-ce, parce que j'y ai joué tous les jours avec le public. Je leur demandais de penser à un juré et on faisait un Qui est-ce géant, le Qui est-ce le mieux produit du monde. Et oui, en effet, c'est la spécificité de ce jeu-là, c'est qu'il y a 100 jurés qui sont tous des professionnels issus de tous les milieux de la musique. On peut avoir des gens de la comédie musicale, du cabaret, de la disco, des gens du rap, du hip-hop, pour tous les goûts, du rock, enfin voilà.
Alors les chanteurs défilent devant ce mur impressionnant, et le but c'est de les faire lever.
Exactement.
Est-ce que je suis la seule à qui ça fait penser à une pub pour de la Danette ?
On se lève tous.
Ouais.
Moi j'ai fait la vanne en tout cas, donc je pense que l'association d'idées se...
Pas dans l'émission, je l'ai vu,
Non, parce que ça a été coupé, la majorité de mes vannes sont coupées. Alors ça, il faut savoir que c'est un vrai truc en télévision. Les gens m'engagent pour faire des vannes, à la journée j'en fais 70-80, et il 3 par émission. Alors, est-ce que c'est du déchet ? Je ne sais pas si le reste sont... Je me pose de vraies questions sur ma qualité d'humoriste.
C'est l'adaptation d'une émission britannique, All Together Now, une émission qui marche très bien au Royaume-Uni.
Carton, voilà, battu Danse avec les Stars, qui est indétrônable sur la BBC.
Jerry Halliwell des Spice Girls et la vedette de la version originale. En France, c'est Garou qui endosse le rôle du capitaine.
Du chef de cœur,
À quoi sert le capitaine, Éric-Antoine ?
Eh bien, il est un peu la voix de tous, c'est-à-dire qu'il va être celui qui va être un peu concis, qui va résumer un petit peu le sentiment entier du mur en fin de dialogue. Et puis c'est aussi il représente, et puis il va être plus assis, plus de notoriété, plus aussi il va parler de la pluridisciplinarité, il va essayer de résumer tout ce qui s'est passé en fait dans ce mur.
Comment Garou présente cette nouvelle émission?
On n'est pas dans la recherche de qui vendra le plus d'albums l'année prochaine. On fait aucune promesse de maison de disques. On n'est pas dans la plus grande des démonstrations vocales. On est dans la contagion. On veut que cette maladie de la musique se déploie. C'est ça l'esprit de Together. C'est 50 000 euros à gagner pour la personne qui va avoir le mieux représenté l'esprit de partage de la musique et qui, évidemment, chante bien parce qu'on n'a pas envie de finir avec une casserole à 50 000 euros.
Et voilà, donc ce n'est ni The Voice, ni la nouvelle star. Hein,
les mots qu'il utilise sont très bons parce que c'est le partage de la musique. C'est-à-dire que pour convaincre 100 personnes qui n'ont rien à voir, qui ont une passion commune, la musique, mais qui n'ont rien à voir dans leurs goûts musicaux, c'est vraiment très intéressant de voir qui va être celui qui va tous les faire se lever, les faire vibrer, les émouvoir.
C'est l'anti-The Voice, Éric-Antoine ?
En tout cas, les jurys ne sont plus en position de star. Donc, en effet, c'est...
On voit rien sur l'avant, par exemple. On les voit pas se ronger les ongles avec anxiété avant de passer.
Là, de vrai,
presque rien.
Ils ont beaucoup travaillé sur... les candidats sont un peu dans le pathos, je trouve, pour dire la vérité. Je trouve qu'ils ont vachement été chercher. Oh là là, j'ai perdu tout le monde, ma famille, j'ai envie de chanter, tout ça. Donc, on est vachement là-dedans.
Je chante pour mon grand-père. Voilà.
Après, je t'avoue qu'il y en a quelques-uns aussi dans l'émission qui sont... Parce que le rapport à la musique est un rapport émotionnel. Donc, forcément, beaucoup de gens chantent pour accoucher d'eux-mêmes, soit pour vivre une émotion qui est trop forte. Et puis la chanson les aide, comme la poésie, comme la littérature nous aide tous à passer des moments compliqués. Donc la chanson fait ce rôle, joue ce rôle.
Mais au fait, on chante quoi dans Together?
Ah.
Les sangs peuvent commencer à sourire et ça se lève.
Alors, si derrière votre radio, comme nous, vous avez fredonné ou chanté à tue-tête sur au moins une de ces chansons,
forcément.
Vous avez expérimenté la contagion musicale sur laquelle
mais
repose
c'est ça,
cette
mais
émission.
À chaque fois que je... Bon, d'ailleurs, tous les tubes, vous les avez entendus, c'est des tubes énormes. On passe de Freddie Mercury à Sia. Enfin, c'est des tubes qui nous ont tous fait chanter, danser, vibrer, qui ont marqué un moment de nos vies. Enfin, vous le savez, une grande chanson, c'est une Madeleine de Proust. C'est-à-dire que ça vous évoque énormément de sentiments, des moments de vie. C'est attaché à votre histoire. Et puis là, l'idée aussi, c'est ça qui fait aussi la qualité du jeu. C'est-à-dire qu'un candidat doit choisir la bonne chanson.
Mais alors justement, est-ce que les jurés se lèvent vraiment pour la qualité de l'interprétation ou uniquement parce qu'ils aiment cette chanson et qu'ils ont envie de se lever pour chanter?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Dans le casting, on sait très bien, quand on est comédien, par exemple, quand on fait un casting, on sait que le choix du monologue qu'on va passer, il est primordial dans la qualité de sa prestation. C'est la même chose pour une chanson, c'est-à-dire qu'il faut que la chanson vous corresponde et qu'on vous croit dans cette chanson, que vous soyez à la hauteur de cette chanson, d'un point de vue personnage, mais d'un point de vue émotionnel, narratif, etc. Donc, bien entendu que la chanson joue, mais les jurys sont suffisamment pros aussi pour dissocier à un moment. Bon, il y a toujours 2-3 couillons dans un groupe, hein. Mais toujours.
Sur 100, ça fait pas beaucoup.
Bah non, mais la proportion. Quelle est la proportion de couillons sur 100? C'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui
on
sur France Inter.
On va faire des stats. En tout cas, c'est une émission musicale, Éric-Antoine, qui laisse la place au yaourt. Et ça, c'est important. C'est quand on chante sans connaître les paroles. Oui. Évidemment, les jurés se lèvent. Ils se mettent à chanter n'importe comment.
N'importe quoi. Bah oui, parce que tous les jurés ne connaissent pas toutes les paroles de
toutes les chansons.
Ne pas
se prendre au sérieux, jamais. C'est le maître mot.
Ça, c'est essentiel.
Ça fait du bien dans ce créneau des télécrochets?
Mais il faut jamais se prendre au sérieux. Même, je vais vous dire, quand j'ai commencé Incroyable Talent, je trouvais que l'émission se prenait au sérieux. J'ai dit, mais le premier truc, c'est de ne pas se prendre au sérieux et que les gens qui se prennent le moins au sérieux les mettent le plus en valeur. Plus les gens sont couillons, plus ils sont libres, plus ils n'ont rien à faire de leur image, plus ils sont importants pour nous aujourd'hui.
Certains jurés dans ce grand mur très impressionnant sont complètement inconnus du public, d'autres le sont un peu plus, mais c'est pas la célébrité qui semble être le critère de recrutement.
Non, c'est, je pense que c'est être un des meilleurs dans sa catégorie, donc on a un meilleur prof de directeur d'école de comédie musicale, grand Gwendal.
Championne de karaté.
Championne de karaoké.
Ah, de karaoké, mais j'avais mal lu, ça n'avait aucun sens.
Non, parce que le karaté, ça n'avait aucun sens. On a les cochons de l'espace pour le rock, on a Morian pour la nuit, on a Gwendal, donc il y a Bilal.
Alors Bilal Hassani, le candidat de la France à l'Eurovision. Absolument. Qui approche bientôt à Tel Aviv en Israël, sauf que vous le présentez jamais comme tel parce qu'il n'était pas encore candidat de l'Eurovision au moment de l'enregistrement de l'émission. C'est dommage.
Oui, c'est dommage, mais en même temps c'est joli parce qu'on va découvrir Bilal.
Il s'appelle
avant.
Juste Bilal. Voilà.
À l'époque, on ne l'appelait que Bilal, et enfin, il s'est toujours appelé Bilal Hassani, mais je l'appelais Bilal. Et il était juste avant sa transformation esthétique. En même temps, il y avait tout le potentiel de lui. Mmh. Pas très loin dans le rang, vous remarquerez qu'il y a Madame Monsieur.
Madame Monsieur, les candidats de l'an dernier à l'Eurovision.
Absolument.
Candidats pour la France. Il paraît qu'ils se sont rencontrés sur votre plateau.
C'est ce que la légende veut dire. Oui, en effet, ils se sont rencontrés, aimés et collaborés sur le démarrage sur le plateau. Oui.
Savez-vous pourquoi on vous a choisi pour présenter ce jeu, Éric-Antoine?
Écoutez, parce que en Angleterre, c'est un humoriste qui la présentait sans prompteur.
Vrai animateur avec
non,
un grand
exactement.
A.
C'est pas quelqu'un qui va travailler sur la mécanique, qui voilà, et un intervieweur, un journaliste. Non, c'est vraiment un humoriste. Et l'idée, c'est d'improviser tout le temps. La, l'oreillette, elle est là quasiment à titre décoratif, c'est-à-dire on me dit va à droite, va à gauche, voilà, en gros de temps en temps on me dit tiens c'est bien si tu fais ça, on me dit ça serait bien que tu rappelles la règle du jeu et sinon c'est roue libre.
Et voici et ce ça, que ça donne. Bonheur.
Un à côté ne s'est pas levé, pourtant je pense que la nuit a été courte pour lui, ce n'est pas ton talent, c'est sans doute un peu de fatigue, voilà, ou peut-être trop manger, hein, je ne sais pas. Pierre-Yves, que s'est-il passé? Les garçons, est-ce que vous n'avez pas de cœur? Est-ce que vous n'éprouvez rien pour une maman et sa fille, ce duo d'amour, c'est ça? Est-ce que tu veux que je t'enfonce encore plus avant que tu parles?
Non, il n'y a pas de problème.
Dans les gestes, un peu moins, la voix est déjà là. Tu viens de perdre tous tes amis, mais c'est bien, c'est aussi ça, le difficile métier de juré.
Jaja
dit parfois n'importe quoi. Merci Fatal. Fatal que vous pourrez donc retrouver dans le prochain opus d'Avatar. Merci.
Avatar, parce que la dame avait les cheveux bleus.
Elle était habillée tout en bleu.
Et une écrevisse sur la tête.
Elle avait une écrevisse et de la maillot sur la tête. Voilà.
Alors c'est vrai qu'une partie de vos répliques ont été coupées au montage, Eric-Antoine, bah, c'était trop osé pour la première partie de soirée.
Non, je ne pense pas que ce soit une question d'oser ou de censure, je pense que c'est une question d'équilibre d'émission. C'est-à-dire qu'il faut laisser la parole à tout le monde, et comme moi je parle beaucoup, il y a forcément une grande, grande proportion de ce que je dis qui ne sera jamais à la télévision, et j'ai envie de dire heureusement.
Autre particularité de ce jeu, les jurés sont équipés d'un micro qui absolument nous permet d'entendre leurs commentaires, un peu comme s'ils étaient eux aussi devant la télé.
C'est une belle ouverture.
Moi non, désolé, tu la vois arriver, elle est mal foutue, c'est une fausse blonde.
Ah non, mais ça va pas ou
c'est une fausse blonde.
Elle est âgée ou pas, dis-moi. Je vois pas bien.
Non, elle est toute jeune.
Elle est jeune, jeune, ok, parce que je...
Enfin, de là où on est.
J'ai trouvé que c'était hurlé.
Elle était pas.
Ah non, j'ai trouvé ça hurlé.
Hurlé, hurlé.
Je suis là pour m'amuser, mais il y a 50 000 euros... à la clé, alors pourquoi pas.
Enfin, une qui dit la vérité.
Naomi, on te souhaite tout le pognon du monde.
Il a quand même mis une méduse sur sa tête.
C'est ringard.
Il s'en donne à cœur joie, hein. Surtout que le candidat ne les entend pas, c'est une question d'importance.
Oui.
J'ai relevé d'ailleurs que le mot ringard revenait à plusieurs reprises dans le premier épisode qui est diffusé ce soir. C'est évidemment pas un compliment dans la bouche des jurés, mais je me suis demandé quand même si c'est pas une émission
marrant
qui assumait le côté festif et joyeux du ringard.
Mais alors pour vous dire, quand même, moi je suis magicien, c'est quand même s'il y a un métier ringard pendant un moment, c'était quand même, j'en étais, je pense qu'entre ventriloque et imitateur, c'est les trois pires métiers du musical. Et donc, la ringardie, j'ai toujours trouvé ça que c'était le charme fou. C'est-à-dire, en fait, c'est tellement beau d'être désuet, d'être hors de son temps et de quand même faire vibrer les gens. Et donc, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, dans la couleur, dans le déploiement de moyens. Il y a des gens qui sont d'une ringardise absolue, mais je trouve que c'est souvent... Enfin, moi, ça a toujours été un compliment, ce mot. Donc, j'aime bien l'entendre.
Dans cette émission, vous n'êtes pas magicien, Eric-Antoine. C'est terminé, la magie?
Ah, pas du tout. Je suis en train d'écrire un nouveau spectacle qui sera aux Folies Bergères en fin 2020. Mmh. Et je l'écris avec Jérémy Ferrari, cet ami et grand artiste. Et donc, pas du tout, mais j'aime bien dissocier les choses. Et puis c'est une aventure supplémentaire, c'est découvrir une autre manière de penser, c'est une autre écriture, c'est l'improvisation. Enfin, il y a beaucoup de défis. C'est ça qui est génial, c'est de se lancer des aventures un petit peu impossibles, et puis on y arrive quand même.
Alors, puisqu'on parle de magie, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'éviction de celui qui a fait de la place aux magiciens dans ses émissions de cabaret. C'est Patrick Sébastien, qui ne sera plus sur France 2 à la rentrée. Est-ce qu'il va manquer, selon vous, au paysage télé?
En tout cas, son type d'émission va manquer vraiment, c'est-à-dire que c'est dur de devoir dire la vérité. Moi, j'aime beaucoup. En fait, si tu veux, j'ai toujours beaucoup aimé ce que Patrick a fait pour la télévision française. Je trouve qu'il a été essentiel et que les émissions qu'il a proposées, les émissions les plus festives, qui réunissaient justement dans cette ringardise assumée que j'aime, dans cette fête de la France et tout ça. Après, je trouve que l'homme, parfois, je suis pas toujours d'accord ni avec ses propos, ni avec ce qu'il propose en termes intellectuels, en termes de pensée, en termes de mots, en termes d'accueil, voilà.
Voilà, vive la ringardise en tout cas.
Mais
Vous gardez cette étiquette de magicien, humoriste, animateur.
Oui, je la garde.
On se débarrasse
jamais
pas comme ça.
De toute façon, je suis foutu maintenant. Si je vais changer, les gens m'en connaissent. Avec le poids, la taille, la silhouette ne passe plus inaperçue.
Je vous ai pas parlé de votre taille, j'en suis pas peu fier. Il fait 2m07,
Eric-Antoine. J'ai croisé un gars qui fait 2m11 là dans les
Mais Mais il faut arrêter maintenant, c'est
j'ai
terminé.
J'ai voulu le
buter. Merci beaucoup, Éric-Antoine.
Voulu... Merci, Dorothée.
Together, c'est donc le rire ce d'Ali. Soir ça sur M6, 21h. Ali Rebeil, bonjour.
Bonjour, Dorothée Barba, bonjour.
Ah, Ali, quel beau sourire.
Il est beau.
On s'intéresse ce matin aux ruptures amoureuses. Comment elles nous transforment, ces séparations. Ça vous intéresse?
Ouais, ça m'intéresse.
Alors, vous pouvez aller témoigner au 01 45 24 7000 ou venir en studio, mon cher Éric.
Ok.
Ne nous quittez pas. Il est 10h sur Inter.
Je ne vous quitterai jamais.